Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et pour nous accompagner jusqu'à 9h30, nous sommes ravis d'accueillir l'écrivain David Fuenquinos. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'avoir choisi Laissez-vous tenter pour nous présenter en avant-première, je le précise, Le Mystère Henri Pic, votre nouveau roman qui sera en librairie dès demain. On en parle dans un instant avec Bernard Lehu et nous l'offrirons ce livre dédicacé au 3210 aux auditeurs d'RTL. Charlotte Arrigoni nous livrera ses express du jour et on terminera en musique avec Stephen Bellery qui a vu pour nous à la Philharmonie de Paris l'exposition consacrée au groupe de Lou Reed, le Velvet Underground.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Alors David Fuenquinos, vous avez ému des centaines de milliers de lectrices et de lecteurs il y a 2 ans avec votre livre Charlotte, l'histoire vraie d'une jeune artiste juive morte à Auschwitz. Un livre qui vous a valu un doublé inédit, le Goncourt des lycéens et le prix Renaudot. Avec le recul, que reste-t-il pour vous d'essentiel de ce succès ?
Ça a été au-delà de tous mes espoirs, parce que c'est vrai que Charlotte Salomon était complètement oubliée, et le succès du livre, le fait qu'il y ait une exposition actuellement au musée Masséna à Nice, tous les jeunes avec le Goncourt des lycéens qui ont découvert qui était cette femme, et c'est vrai que le livre sort bientôt en folio aussi, il est étudié beaucoup dans les classes, c'est vrai que pour la vie d'un écrivain ou d'un homme tout simplement, d'être en capacité à un moment donné de sa vie de pouvoir faire partager une telle admiration, une telle passion pour une artiste et la faire ressurgir de l'oubli, c'est inouï.
J'allais vous dire, vous l'avez ressuscité, vous lui avez donné une seconde vie, parce que maintenant on la connaît, on cite son nom, on parle d'elle, elle existe, les Français savent qui est Charlotte Salomon. Et alors du coup c'est un peu tordu ma question, parce qu'on se dit qu'écrire le livre d'après, ça n'a pas dû être une mince affaire.
Non, c'est pas une question de tordu, c'est très juste. C'est vrai que après l'écriture de ce livre qui m'a pris 10 ans, parce que j'ai enquêté, je suis allé sur toutes les traces de sa vie, c'est vrai que j'étais lessivé, si j'ose dire. Et pendant un an, je n'ai pas écrit. J'ai pensé d'ailleurs que peut-être que je n'aurais pas de nouvelle idée, que la machine ne redémarrerait pas. Et puis finalement, quelque chose s'est passé au bout d'un an et j'ai écrit ce livre, Le Mystère Henri Pic.
Bernard Lehu, Le Mystère Henri Pic, qui paraîtra demain chez Gallimard, marque donc le retour de David Fuenquinos à son genre de prédilection, la comédie.
Oui, et la machine a donc bien refonctionné, David Fuenquinos, une comédie, mais alors matinée de suspense, voire de polar littéraire, et puis surtout qui part d'une belle idée qui va séduire tous ceux qui aiment les livres, les lecteurs comme les libraires, la création d'une bibliothèque des manuscrits refusés. Et oui, au fil des ans, un bibliothécaire breton de Crozon, dans le Finistère, pourquoi Crozon ? On comprendra ça tout à l'heure avec vous, les a recueillis par centaines, ces manuscrits oubliés. Personne ne se presse pour les consulter, jusqu'au jour où une jeune éditrice parisienne découvre un chef-d'œuvre parmi ces textes oubliés, Les dernières heures d'une histoire d'amour signée d'un certain Henri Pic. On découvre que c'est le patron de la pizzeria locale, aujourd'hui décédé. Le livre devient un immense succès, alimenté par le mystère entourant bien sûr son auteur. Comment un homme inculte et falot a-t-il pu écrire un tel chef-d'œuvre ? Alors s'agit-il d'un canular ? Eh bien la réponse viendra après moult péripéties. David Fuenquinos, vous est-il arrivé d'avoir l'un de vos manuscrits refusé ?
Ah oui, donc tout d'abord vous avez raison, c'est vrai que c'est une enquête, c'est un polar et c'est vrai que c'est une déclaration d'amour à la littérature. Et donc moi c'est vrai que la littérature a changé ma vie quand j'étais adolescent et je me suis mis à écrire. Mais je n'ai pas été refusé. C'est vrai que j'ai envoyé mon premier manuscrit à l'âge de 26 ans. À vrai dire, j'ai été refusé par tous les éditeurs, sauf Gallimard.
Sauf Gallimard, excusez.
Donc, ça a été pour moi une grande surprise. Je pensais qu'on me faisait une blague, que c'était un canular. Quand j'ai reçu un appel du comité de lecture de Gallimard, et c'est vrai que l'éditeur qui a lu ce premier roman, que je vous déconseille d'ailleurs, mes premiers romans.
Ah bon
Oui, je les trouve vraiment trop fou, trop absurdes.
Vous allez jusqu'où à partir de duquel de vos livres on peut vous lire ?
Lisez le dernier, c'est déjà pas mal.
Il est incroyable.
Et c'est vrai que Jean-Marie Laclaftine, l'éditeur chez Gallimard, a changé ma vie parce qu'il est tombé sur ce manuscrit et puis il a dit que ça valait le coup d'essayer et puis ça a été très très beau parce que mes livres n'ont pas marché tout de suite. Au bout de 10 ans, La Délicatesse et puis le prix Renaudot, le prix Goncourt des lycéens avec Charlotte, c'est vrai que ça a été très émouvant parce que toute la maison me suivait depuis 15 ans.
Alors, il n'y a pas de honte à être refusé. Il y a des exemples célèbres de manuscrits refusés. Vous rappelez dans ce livre notamment le cas de Marcel Proust chez Gallimard.
Oui, c'est vrai que je fais une petite liste de tous les immanquables. Enfin, tout ce qui a été raté dans l'édition. Évidemment, Proust en premier. C'est vrai que c'est d'ailleurs, Gide disait que c'était l'erreur monumentale de la NRF, de Gallimard. Parce que c'est vrai qu'ils sont passés à côté, puis ils l'ont très vite rattrapé pour le deuxième tome de la recherche. Et il a obtenu le Goncourt avec À l'ombre des jeunes filles en fleurs.
Il existe vraiment une bibliothèque des manuscrits refusés aux États-Unis.
Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai que le point de départ est tout à fait réel. Cette bibliothèque existe. Elle a été créée par un Américain suite à la lecture d'un livre de Richard Brautigan. Et actuellement, elle est à Vancouver. Donc, pour tous ceux qui ont des manuscrits en souffrance, qui n'ont pas d'éditeur, vous pouvez aller à Vancouver déposer ce livre-là. Par contre, c'est vrai que j'ai inventé la version française, la version bretonne de cette bibliothèque.
Et d'ailleurs, pourquoi à Crozon? Pourquoi la Bretagne?
Parce qu'il y a quelque chose que je trouvais très très beau dans cette idée, c'est qu'il fallait venir personnellement déposer son manuscrit. Comme si on renonçait quelque part à la publication, à une forme de lumière, et que pour tous les orphelins de l'édition, il y avait cette idée de traverser la France, d'aller au bout de la France, le Finistère, à Crozon, une ville que j'adore, et c'est vrai, pour déposer ce manuscrit comme une sorte de bouteille à la mer, et qui sait, peut-être que quelqu'un le lirait plus tard.
C'est une ville que vous adorez, puis c'est un petit peu quand même aussi le bout du monde.
Oui, c'est le bout du monde. Voilà. Oui, mais il y a une symbolique. Et puis, c'est un décor absolument parfait pour achever une ambition.
Notre breton, Stephen Bellery, est en train d'acquiescer en vous écoutant.
Finistère se traduit en breton par bout du monde.
Ben, exactement. Finistère, c'est la fin de la Terre. Voilà. Exactement.
Bon, j'ai peut-être un lecteur déjà, un breton. Polar breton.
Vous l'avez dit, mais je voudrais qu'on revienne là-dessus, qu'on y insiste. Le mystère Henri Pic, le couvert comme ça d'une comédie, d'une espèce d'intrigue policière, c'est un hommage, il faut insister là-dessus, un très bel hommage de votre part. Alors bien sûr, avec la légèreté qui vous caractérise, mais aussi la densité que vous pouvez lui donner au livre. Et à la lecture.
Oui,
et vous précisez que la lecture, c'est quelque chose d'accessible à tous, qu'un jour ou l'autre, on trouvera tous le livre qui nous fera aimer la lecture.
Oui, je ne crois pas qu'on puisse ne pas aimer lire. Alors après, moi, je rencontre beaucoup d'élèves, de jeunes, je les déculpabilise, on a le droit de ne pas aimer lire. Mais je crois qu'on n'a pas eu l'occasion de tomber sur le bon livre. Chaque personne a le livre qui lui correspond, il faut le trouver. Alors c'est vrai que j'ai ce bibliothécaire qui a ce pouvoir magique, il vous voit et il sait exactement le livre qu'il vous faut. C'est vrai que c'est un amour des livres que je raconte à travers ce livre, à travers tous les personnages, que ce soit un bibliothécaire, une éditrice, les représentants, les libraires. Et c'est vrai que c'est une façon pour moi de rendre tout ce que m'a apporté la littérature.
Et vous pensez vraiment qu'on a tous un livre qu'on ne connaît peut-être pas, qui peut nous déclencher, en tout cas qui peut déclencher une vie où la lecture trouve son espace?
Mais je crois que c'est vraiment le cas. Même les gens qui disent ne pas aimer lire... Parfois, ils vont tomber sur un texte qui va leur plaire, une bande dessinée, peu importe ce que ça peut être.
Bien sûr.
Et on est tous potentiellement
Harry Potter,
accrochés.
Oui,
Harry Potter ou plein d'autres livres. On est tous moi, en fait, ça part de ma propre expérience. Puisque jusqu'à l'âge de 16 ans, je n'aimais pas lire. Alors c'est vrai que j'ai été gravement malade et ça a changé ma vie. Mais à ce moment-là, je suis tombé sur des textes qui m'ont plu, que ça soit Kundera, que ça soit Dostoïevski. Et finalement, c'est un peu le hasard, au gré des livres qui ont pu apparaître près de moi à ce moment-là.
On va maintenant s'intéresser aux résultats de notre soirée d'audience avec Médiamétrie et surtout avec Laurent Marsic.
Avec Grey's Anatomy en tête sur TF1 qui gagne 100 000 téléspectateurs par rapport à la semaine dernière à 4 718 000 téléspectateurs. En seconde position, un téléfilm sur l'autisme qui était sur France 2 presque comme les autres, 4 143 000 téléspectateurs. Et puis on va juste signaler, qui est plutôt un bon score, le documentaire sur Hitler et les apôtres du mal qui était sur M6 à 2 454 000 téléspectateurs.
Merci Laurent Marsic. Dans un instant, la suite de notre entretien avec David Fuenquinos à la veille de la parution de son nouveau roman. Il est chez nous, Le mystère Henri Pic, c'est chez Gallimard. A tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Nous sommes toujours avec grand plaisir en compagnie de David Fuenquinos qui publie demain chez Gallimard Le mystère Henri Pic, l'histoire d'un chef-d'œuvre retrouvé dans une bibliothèque des manuscrits refusés. La publication de ce chef-d'œuvre bouleverse le destin de plusieurs de vos personnages. Un livre a le pouvoir de changer une vie.
Oui, je crois vraiment, et c'est un des sujets du livre. C'est vrai que le livre de ce fameux Henri Pic qui est retrouvé s'appelle « Les dernières heures d'une histoire d'amour » qui raconte l'agonie d'un couple. Et c'est vrai que tous les couples, toutes les personnes qui vont lire ce livre vont avoir leur vie sentimentale modifiée d'une manière un peu étrange aussi. C'est le pouvoir de la littérature. Mais c'est vrai que je raconte les dernières heures de plusieurs couples à travers la lecture de ce livre aussi. Mais ça, moi, c'est vrai qu'en tant que lecteur, les livres ont changé ma vie, donc bien sûr.
Et en tant qu'auteur aussi, pour vous, avec Charlotte, comme vous l'évoquiez tout à l'heure.
Oui, c'est vrai que Charlotte, parce que c'est vrai que c'est une artiste immense, une grande peintre, mais c'est aussi, il y a des textes littéraires, il y a de la musique, et c'est vrai que son œuvre m'a accompagné pendant des années, et je pense qu'on ne peut pas de toute façon écrire si on n'est pas enrichi en permanence par la sensibilité des autres.
Donc, l'un des grands sujets, on l'a compris également, du mystère Henri Pic, c'est l'amour. Et vos plus beaux portraits sont
vous
ceux...
Vous pouvez nous le refaire
L'amour.
Général de Gaulle. On dirait qu'il revient de Venise.
Et ben, vos plus beaux portraits, ce sont ceux des amoureuses. Il y en a plusieurs ici. Magali, Joséphine, Marina, aussi émouvante que la Nathalie de la délicatesse. David Fuenquinos, c'est l'écrivain qui aime les femmes.
Ah, c'est ce qu'on a beaucoup dit après la délicatesse. À vrai dire, c'est vrai que je me sens proche de tous les personnages. Alors c'est vrai que j'aime parler des femmes, j'aime parler de ce qu'elles ressentent. Et là, il y a plusieurs portraits de parcours. Mais je me sens aussi proche du bibliothécaire un peu étrange qui vit en marge de la société, dont la seule passion finalement, c'est de pouvoir faire lire les gens et toute son énergie. Quelque part, on est présent en tant qu'auteur, je pense, dans tous les personnages. Mais il faut effectivement une sensibilité féminine.
Mais pardonnez-moi, ça veut dire que vous vivez toutes les vies de vos personnages.
Alors, ce que nous faisons, vous savez, en tant que lecteur, c'est un parcours que vous menez déjà vous avec vos petits bonshommes et vos petites bonnes femmes.
Je vis peut-être pas techniquement toute leur vie, mais c'est vrai que d'une manière générale, on est extrêmement en empathie. Et j'ai besoin moi de les ressentir. Peut-être qu'il y a on a des affinités. Oui. Le journaliste un peu à la dérive, un peu has-been, qui va enquêter sur toute cette histoire, finalement, je pense que c'est le personnage qui me touche le plus.
Pourquoi ?
Parce que c'est vrai que quand on lit le livre, on peut se demander pourquoi. Mais il a quelque chose d'un peu, comment dire, de fatigué, de désespéré. Et à travers cette histoire, il va s'animer progressivement et il va revivre à travers cette enquête.
La revanche des losers.
Ça nous laisse de la marge.
Il y a un peu de ça.
Pour une seconde vie.
Alors, il y a peut-être une révélation dans ce livre, page 35. L'écriture fournit des alibis extraordinaires. Écrivain est le seul métier qui permette de rester sous une couette toute la journée en disant « Je travaille ». David Fuenquinos, vous écrivez au lit.
Oui, j'adore. C'est vrai que vous avez raison. Alors c'est pas moi, c'est l'écrivain qui va partir à la recherche aussi
de vous dans cet écrivain.
Mais bien sûr, je crois que c'est magnifique. C'est le vêtement où on peut tout enfouir l'écriture, puisque à chaque fois qu'on fait, on peut rester dans son lit, mais il suffit qu'on se promène dans la rue, on peut dire je travaille, je m'inspire. Quoi qu'on fasse, finalement, on peut trouver une justification.
Mais vous l'avez fait.
Mais c'est vrai que moi, j'écris beaucoup dans mon lit, dans les trains et dans mon lit.
À l'ordi. À l'ordinateur, pardonnez-moi.
Oui, j'écris à l'ordinateur.
Donc vous pouvez ouvrir votre petit ordinateur dans votre lit, vous mettez un petit coussin en dessous et vous...
Bah, à l'heure qu'il est, en général, ça me fascine, ça, ne suis pas tous les matins à RTL, donc c'est vrai que je suis plutôt dans mon lit et j'écris. Oui.
Autre citation, voilà. Écrire pour soi serait comme faire sa valise pour ne pas partir.
Je crois beaucoup, c'est vrai que moi je rencontre beaucoup de gens à travers les salons qui écrivent, qui ont cette passion de l'écriture, mais... Je ne crois pas qu'on écrit vraiment pour soi. On a toujours besoin d'un destinataire. Mais ce qui est important, c'est de pas forcément imaginer le plus grand nombre. Ça peut être une seule personne. Il y a de toute façon... je ne crois pas les gens qui disent « écrire pour eux ». Il y a aussi dans toute l'idée de ce roman, même si on abandonne l'envie d'être publié ou ce rêve-là, de déposer ce livre dans cette bibliothèque des manuscrits refusés, il y a le rêve sous-jacent d'être lu par quelqu'un.
Alors, après le succès de La Délicatesse au cinéma, est-ce qu'il y a déjà des propositions, des projets d'adaptation sur grand écran pour Le Mystère Henri Pic ?
Ah, Le Mystère Henri Pic, personne ne l'a lu encore, donc on verra.
Les producteurs parfois lisent en amont.
Oui.
Vous connaissez surtout quand on s'appelle David Fuenquinos.
Oui, vous ne connaissez pas les éditeurs, là, je rêve.
Oui, je pense que... Alors, c'est très étonnant parce que moi, quand j'écris mes livres, je ne pense pas du tout en termes d'adaptation et je ne sais jamais si le livre peut devenir un film. C'était le cas pour La Délicatesse, c'était le cas pour Les Souvenirs. Le prochain film qui va être adapté d'un de mes romans, c'est Je vais mieux, sur l'histoire de l'homme qui a mal au dos.
Et puis alors peut-être Charlotte, car vous faites un appel du pied à Roman Polanski dans votre roman. J'explique, l'éditrice de Monsieur Pic pense à Polanski pour adapter son livre, mais, et je vous cite à nouveau, il venait, Polanski, de commencer le tournage de son nouveau film, L'histoire d'une jeune peintre allemande morte à Auschwitz. Tiens.
Alors c'est vrai que j'adore Polanski, c'était un rêve, mais j'ai écrit ce passage il y a plusieurs mois. Et entre temps, il y a un projet de film qui a vraiment démarré.
Pour Charlotte.
Alors, j'ai pas le droit de le dire, mais je vais vous donner un scoop. Oui. C'est le réalisateur Olivier Dahan qui travaille sur l'adaptation de Charlotte, qui a fait La Môme. Et j'en suis très heureux parce que c'est vrai qu'il a étudié aux Beaux-Arts. Il a une sensibilité vraiment artistique phénoménale.
Et alors, le projet est avancé.
Ça sera
vous participez au scénario
Oui, je suis en train d'écrire le scénario parce que c'est vrai que Charlotte, je connais sa vie en long, en large, en travers.
Et avec un casting déjà pour
non,
Charlotte
pas du tout.
Ah
Non, c'est au tout début du projet. Impatience. C'est quelque chose qu'on ne doit jamais faire. Ouais. Mais comme RTL, c'est une radio confidentielle, je me suis permis.
Oui, faites bien. On est entre nous. Alors, nous allons vous faire gagner le mystère Henri Pic, dédicacé par David Fuenquinos et publié chez Gallimard, si vous répondez à la question que vous pose Bernard.
Eh bien, Charlotte, on en parlait à l'instant. Le succès précédent de David Fuenquinos a été le premier livre à recevoir la même année deux grands prix littéraires. Pouvez-vous nous citer l'un de ces deux prix ?
Réponse au 32-10.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Les Express LVT.
Toujours en compagnie de David Fuenquinos. Vous restez avec nous, bien entendu, David, pour le temps de ces Express de Charlotte Arrigoni. Bonjour Charlotte.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Alors, que donne cette semaine le palmarès des meilleures ventes de livres avec RTL et le magazine L'Express ?
Eh bien, du côté des romans, la révélation de l'année tourne au phénomène. Olivier Bourdeau, l'auteur de En attendant Bojangles, Grand Prix RTL Lire 2016, s'empare de la première place. Il devance, excusez du peu, un Goncourt, Pierre Lemaître et son nouveau livre « Trois jours et une vie ». Quant à Marc Lévy, abonné au best-seller, il se classe troisième avec l'horizon à l'envers.
Vous avez lu le livre de
Bourdeau ? Oui, je l'ai lu et c'est vrai que ça m'étonne pas. Il a beaucoup de charme, de fantaisie, puis il y a une profondeur. Mais c'est vrai que c'est une belle histoire. Moi, ça m'était arrivé avec La délicatesse. Subitement, le public s'empare d'un livre et puis après, il est couronné par les prix.
Du côté des essais, pardon.
Dans cet attendant Bojangles, c'est un peu de David Fuenquinos, finalement, peut-être.
Oui, de certains de mes premiers romans, parce qu'il y a de la fantaisie, c'est un peu absurde aussi. En tout cas, ça fait du bien, voilà, des livres qui surgissent comme ça.
Voilà pour les romans. Et alors, du côté des essais et des documents, c'est Fabrice Lucchini qui fait toujours la course en tête avec Comédie française.
Palmarès complet, hein, retrouvé bien entendu dans l'hebdomadaire L'Express. Le documentaire Demain sur l'environnement fait un carton. 4 mois après sa sortie dans les salles, déjà près de 950 000 entrées ont été vendues.
C'est un score colossal pour un documentaire diffusé sur grand écran et honneur supplémentaire. Après avoir été projeté lors de la COP21 à Paris, le film sera présenté ce soir aux Nations Unies à New York, dans la salle du Conseil. Il y aura notamment les deux réalisateurs, Mélanie Laurent et Cyril Dion. Ce dernier nous raconte d'ailleurs comment tout ça s'est organisé.
Mais en fait, il y a un festival du film français qui s'appelle Focus qui est organisé à New York tous les ans. Et cette année, ils ont décidé de faire une soirée spéciale avant l'ouverture du festival. Et ils ont été voir l'ONU en leur disant « Voilà, ce film a énormément de succès en France et dans le monde puisqu'il a été vendu dans 25 pays. On pense que ça serait symboliquement extrêmement fort de le projeter dans la salle du Conseil de sécurité. » Et l'ONU a accepté. Évidemment, c'est très émouvant et je pense qu'on va essayer d'être à la hauteur de l'occasion.
Cyril Dion au micro RTL de Stéphane Boutsock. Et sachez que l'aventure Demain devrait se poursuivre à la télévision puisque Cyril Dion et Mélanie Laurent travaillent sur une série de 5 fois 52 minutes pour France Télévisions. L'objectif, c'est d'approfondir les thématiques du film comme l'éducation, l'agriculture ou encore l'économie.
Restons à New York, Charlotte, puisque ce soir et demain, la musique de David Bowie sera mise à l'honneur.
En effet, il va y avoir 2 concerts au Radio City Music Hall. Concerts exceptionnels qui réuniront une vingtaine d'artistes comme Cyndi Lauper, Patti Smith, Blondie ou encore Miley Cyrus. Tous reprendront pour l'occasion les plus grands titres de l'artiste disparu à l'âge de 69 ans. Il y aura aussi Michael Stipe, le chanteur de R.E.M. qui hier soir à la télévision américaine a déjà repris le tube « The Man Who Sold the World ». Sachez que le deuxième concert demain en hommage à Bowie sera diffusé en direct et en streaming sur Skype. Pour obtenir le lien, il faut par contre faire un don d'au moins 4 €, dons qui seront intégralement reversés à plusieurs organismes de bienfaisance tournés vers la musique et l'art.
Merci beaucoup Charlotte, c'était donc les Express de Laissez-vous tenter. On va balayer l'actualité musicale pour terminer. Un an après l'exposition consacrée à David Bowie, la Philharmonie de Paris rend hommage cette fois-ci au Velvet Underground. Superbe rétrospective qui vient d'ouvrir ses portes. Steven Bellery.
Oui, sous-titré New York Extravaganza. L'expo revient sur la courte histoire du groupe. 5 petites années de 1965 à 1970, mais des décennies d'influence sur le rock de David Bowie à Étienne Dao. Les Velvet, c'était d'abord un son. $6 in my hand. et une rencontre entre deux musiciens que tout oppose. Lou Reed, le juif de Brooklyn paumé, et John Cale, le gallois protestant destiné à devenir chef d'orchestre. L'expo est une plongée dans le New York des 60s, celui de la Beat Generation. On entend Lou Reed expliquer que gamin, il prenait un médicament contre l'asthme à base d'opium. Il découvre alors un pont entre drogue et musique. Un soir de décembre 65, The Velvet Underground joue au Café Bizarre à New York. Andy Warhol est dans la salle, il devient leur mécène grâce à sa factory, une pépinière d'artistes. Christian Fevret, le commissaire de l'expo.
Le Velvet n'est pas une création de Warhol, n'est pas un jouet entre les mains de Warhol. Ils ont collaboré, ils ont travaillé ensemble, ils ont créé un show ensemble. Warhol leur a permis d'enregistrer leur premier album, de jouer en toute liberté. Mais en aucun cas, le Velvet n'est la créature de Warhol. Finalement, le Velvet a distillé aussi son doux poison dans l'art contemporain, dans la photographie, dans le cinéma. Le Velvet, c'est un état d'esprit de liberté, de création. Création absolue, ça c'est intemporel.
Évidemment de leur premier disque et cette pochette mythique, une banane stylisée par Andy Warhol, album sorti il y a pile 50 ans. L'expo revient bien sûr sur ce mythe populaire, on regarde des archives allongées sur des matelas, on revit l'arrivée de la chanteuse Nico dans la bande et l'impact du groupe bien après leur séparation. The Velvet Underground New York Extravaganza, c'est jusqu'au 21 août à la Philharmonie de Paris, entrée 10€.
Dites donc, David Fuenkinos, vous avez été, oui, prof de guitare, non?
Oui, j'ai fait une école de jazz et c'est vrai que j'adorais les Velvet. Pendant, à une époque, tous les dimanches matins, j'écoutais Sunday Morning.
Ah bah voilà. Alors dans l'actualité musicale également, le retour d'un groupe qu'on avait peut-être un peu oublié, Mickey 3D.
Ouais, mené par le chanteur Michael Furnon, la bande avait rencontré le succès en 2003 avec ceci, souvenir.
Faut que tu respires. Ça, c'est rien de
13 ans plus tard, Mickey 3D s'est renouvelé. Trois nouveaux musiciens, le retour de Naja au clavier après une pause de 7 années. Ils publieront demain, vendredi, C'est beau la vie, nouvel album de 13 chansons, disque inégal, un peu fouillé avec quelques atouts comme le morceau qui donne son nom au disque.
C'est beau la vie quand on y pense.
Mickey 3D tacle la nouvelle génération qui lève le bras pour la nation, un disque dense lié au caractère du chanteur Michael Furnon.
Souvent je pars d'un texte, d'une thématique, d'une idée, de quelque chose qui m'inspire. Je suis un espèce de citoyen qui a le privilège de pouvoir s'exprimer en faisant des chansons, donc c'est une chance. Donc je parle de tous les trucs qui pourraient énerver tout un chacun dans l'actualité, dans ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe en France. On m'a toujours dit pessimiste, moi je dirais plus mélancolique parce que ça fait un peu partie de ma personnalité, puis j'ai toujours aimé la musique mélancolique.
Les années passent. Tout se déplace, toujours en suivant la lune.
C'est beau la vie, nouvel album de Mickey 3D, ça sort demain. Le groupe est sur les routes au Trianon à Paris le 15 avril et dans plein de festivals cet été.
Merci beaucoup Steven Bellery. Dans un instant, nous vous donnons rendez-vous pour savoir si vous avez gagné le dernier livre de David Fuenkinos, qui est notre invité. On lui dira au revoir. Pour ça, il fallait répondre à la question que vous a posée Bernard Lehu. Je vous la rappellerai dans un instant. Un peu de suspense.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Vous suivez son travail depuis des années, vous avez aimé ses précédents romans et donc nous voulions ce matin vous faire gagner Le Mystère Henri Pic, dédicacé par David Fuenkinos, son nouveau roman qui sort demain chez Gallimard. Pour ça, il fallait répondre à la question que vous a posée Bernard, que je vous rappelle. Charlotte, le succès précédent de David, a été le premier à recevoir la même année deux grands prix littéraires. Pouvez-vous citer l'un de ces deux prix ?
David,
bah oui, c'était le prix Renaudot et le prix Goncourt des lycéens.
Bravo. Voilà. L'un ou l'autre, vous avez donc gagné en nous appelant au 3210.
Merci.
Oui, alors, okay, bien sûr. Ça, c'est un appel pour ce qui va se passer demain. Grand rendez-vous, Stéphane Boutsock, avec toute l'équipe des visiteurs.
Oui, hein. Demain, à cette heure-ci, je ne sais pas dans quel état on sera, parce qu'on sortira d'une émission en public dans le grand studio avec Christian Clavier, Jean Reynaud, Marianne Chazelle et Dubosc à quelques jours de la sortie événement des visiteurs 3 avec RTL.
Tout cela en direct, on vous donne donc rendez-vous demain. Merci beaucoup, David Fuenkinos.
C'était un grand plaisir, surtout que Bernard Lehu et RTL, vous avez été les premiers à soutenir Charlotte, qui a eu après un destin magnifique, donc je profite pour vous remercier encore.
Bon, je souris en fait d'aise, parce que c'est bien agréable. Bonjour Julien.
Bonjour.
Ça va, ma fribouille ?
Bah, oui, ça va très bien, ma jacouille. Elle m'a touché le fessard. Vous vous rappelez de celle-ci ? À un moment donné, c'est dans le 1, je crois, au Christian
Clavier. Oui, c'est dans le 1, je confirme.
J'adore. Comment va votre fessard, monsieur Calvi ?
Bah écoutez, bien, puisque je vais le lever pour aller vaquer à d'autres occupations pendant que vous travaillerez.
Transportez-le et faites le tour du pays. Bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir.